France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Pomme C, pomme V, pomme P, ou traduit dans l'autre langue de la planète informatique, contrôle C, contrôle V, contrôle P. Voilà, résumé l'émission à venir. Voilà le trajet que nous allons effectuer au long de cette suite dans les idées. Copier-coller donc pour commencer avec le chercheur Alain Deneville qui s'est intéressé à ce geste d'écriture devenu si mécanique. Qu'est-ce qui le rend possible? Quels effets produit-il? Que dire en somme de cette habitude largement inquestionnée de nos quotidiens? Et une fois cette première partie saisie, nous pourrons procéder à l'impression, pomme P donc, avec deux artistes, un atelier, plus précisément celui de Mathieu Raffard et Mathilde Roussel qui publient Bourrage papier ou les leçons politiques d'une imprimante. Et pour terminer l'émission, dans la rubrique actualité, il sera question d'écologie. L'écologie comme politique du care, c'est le titre d'un numéro de la revue Raison politique qu'ont dirigé ensemble Sandra Laugier et Fabienne Brugère. Cette dernière nous rejoindra pour cette rubrique actualité. Bonjour Alain Deneville.
Bonjour Sylvain.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne. Vous êtes l'auteur de deux livres qui paraissent coup sur coup. L'un consacré à l'OSINT, enquête et démocratie, c'est cette méthode d'enquête à distance dont vous aviez dit quelques mots ici à propos d'un numéro récent de la revue Multitude. Ce livre paraît aux éditions de l'INA, on aura l'occasion d'en dire aussi quelques mots. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre tiré de votre recherche doctorale qui paraît aux éditions de l'université de Grenoble, dans une collection importante dans laquelle on a vu des ouvrages comme celui de Catherine Hales notamment paraître, qui était venu en parler dans cette émission. Et ce livre, Copier-coller, le tournant photographique de l'écriture numérique. Alors, pour commencer, c'est un livre, une recherche en littérature, mais évidemment qui s'intéresse à l'archéologie des médias, qui adopte notamment cette perspective de l'archéologie des médias, et qui prend le parti, et on va commencer par là, tout simplement, de considérer ce geste qu'on fait tous des dizaines de fois par jour pour désormais écrire face à nos ordinateurs, ce geste de copier-coller comme non pas un geste d'écriture, mais un geste photographique. Pourquoi ce serait, selon vous, un geste photographique?
Il y a plein de raisons à ça, mais vous avez raison, c'est un geste. Et moi, c'est ce qui m'a surpris en premier, c'est je le fais tout le temps. Concrètement, ma vie est un copier-coller. J'ai écrit ce livre en copier-coller. Les passages des textes n'arrêtaient pas de bouger, de transmuter, etc.
Il y a juste un geste qu'on fait peut-être plus, c'est pommesse. Parce qu'on a toujours peur de perdre ce qu'on est en train de faire.
Oui, voilà. Il y a pommesse ou contrôle S selon le dispositif informatique sur lequel vous êtes. Et en fait, je me questionnais à me dire, c'est assez marrant. C'est un geste, on va dire, d'écriture pour commencer, qu'on fait tous et on ne l'a jamais vraiment pensé, réfléchi. Et je me suis dit, au niveau de l'histoire et de l'anthropologie de l'écriture, c'est quand même assez étonnant. Et en lisant tout ça, je me suis dit, est-ce que c'est pareil si je tape sur mon ordinateur une phrase, si j'écris manuellement, est-ce que c'est pareil que copier-coller? On pourrait se dire, oui, il y a de l'écriture parce qu'il y a l'inscription d'un texte nouveau sur un support nouveau. Donc, on est dans de l'écriture. Et en même temps, on arrive à un paradoxe, si on suit cette logique-là, qu'on puisse écrire sans jamais avoir lu ce qu'on a écrit. Je donne un exemple. Pendant longtemps, moi, j'étais en couple avec une personne russe. Je ne parle pas le russe. Et en fait, on s'écrivait sur nos dispositifs Facebook à l'époque, et quand on était un peu flemmés de parler en anglais, il me parlait en russe et moi, je parlais en français.
Chacun dans sa langue.
Chacun dans sa langue. Donc, je devais faire des copier-coller de russe pour les mettre dans DeepL à l'époque, un logiciel de traduction, pour avoir accès en français. Donc, je faisais un geste d'écriture qui me semblait assez incroyable, c'est que j'écrivais sans savoir du tout ce que je lisais. Et je me suis dit, c'est assez marrant, on peut même aller un peu plus loin, je peux copier-coller 30 000 pages de texte et les coller ailleurs, donc j'aurais écrit 30 000 pages sans avoir même une conscience de ce que j'écrivais. Et je me suis dit, ça, c'est un geste d'écriture qui est nouveau, qu'il faut questionner. Et plus j'avançais dans mon enquête, dans cette archéologie des médias, je me disais, mais en fait, je fais de la photographie. C'est photographier un texte et le déplacer. Et qu'est-ce que ça veut dire d'écrire avec de la photographie? C'est la question que je me suis posée. Je pense que ça change énormément de choses, et énormément de choses qui permettent de penser aujourd'hui aussi l'intelligence artificielle. Et voilà, c'était un peu la question que je me posais.
On va revenir sur tout ce que ça change, mais en vous lisant, j'ai pensé à une pratique relativement récente que j'utilise assez souvent et qui est venue vérifier en fait ce que vous venez de dire. Quand on poste un message sur un réseau social comme Blue Sky par exemple, pour ne pas parler de l'autre, et qu'on veut poster un message trop long par rapport au nombre de caractères autorisés, il n'est pas rare qu'on fasse une capture d'écran d'un texte issu d'un autre réseau social, par exemple, qu'on veut reproduire. Mais plutôt que de le recopier, on en fait une capture d'écran. Et d'ailleurs, quand on ne prend pas le soin de mettre le dispositif pour les malvoyants ou les non-voyants, on se fait en général tacler en commentaire immédiatement parce qu'il faudrait une description de l'image. Mais c'est bien une image qu'on a copiée. Et au fond, ça m'a semblé une illustration parfaite de ce que vous décrivez, Alain de Neuville.
Oui, il me semble que j'en parle aussi dans le livre sur cette question de... Avant, moi, quand par exemple quelqu'un me donnait un code pour rentrer chez lui parce qu'on avait une soirée ou quelque chose comme ça, j'écrivais sur un bout de papier. Alors le digicode, c'est ça, il faut appeler tel interphone. Maintenant, je fais juste une capture d'écran parce qu'entre-temps, je parle beaucoup avec les personnes et je la retrouve. Donc, une bonne partie de mon écriture, des notes que je prends aujourd'hui, ce ne sont plus des notes manuscrites. C'est des notes que je reprends. Même si je dois, par exemple, j'adore partager des citations avec des gens. Je lis un truc et je me dis « Ah, c'est super, ça va te parler ». J'en fais des photographies, je les envoie. Quand je lis, par exemple, à AOC, sur mon téléphone portable, j'en fais une capture d'écran et je l'envoie à quelqu'un d'autre. J'écris beaucoup par de la photographie. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte en se disant, mais qu'est-ce que ça change non seulement à l'histoire de l'écriture, et qu'est-ce que ça change à la pensée ? Quand le fait d'écrire n'est plus le fait de faire passer une matière textuelle dans mon corps, que ce soit par un crayon ou par un dispositif tel un clavier, qu'est-ce que ça fait à cette écriture? Qu'est-ce que ça change? Et ce que je présuppose, c'est que ça change énormément de choses. C'est pour ça qu'il faudrait s'y interroger.
Alors, on va venir sur tous ces changements, mais avant ça, je voudrais qu'on fasse justement un peu d'archéologie des médias avec vous. Cette intuition, elle vous vient particulièrement d'un théoricien, Flusser, qui vous a invité à réfléchir à ça comme un dispositif photographique. Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous replacez, au fond, cette technologie ou ce geste nouveau du copier-coller dans une histoire beaucoup plus longue de l'écriture.
Oui, et donc effectivement, moi je suis beaucoup influencé par ce philosophe tchèque à la vie à la fois dramatique et rocambolesque que fut Wilhelm Flusser, qui me semble qu'il y a une vraie réhabilitation de Flusser à faire, mais aussi du travail d'un théoricien qui s'appelle Jussi Parikka, qui travaille sur l'archéologie des médias. Donc j'ai aussi l'honneur à ce que mon livre paraisse dans la traduction française, dans la même collection que le livre de Jussi Parikka. Et moi, je pars d'un programme, en fait, d'une certaine manière. La copie, c'est aussi vieux que l'histoire de l'écriture. Dès qu'on a commencé à écrire, on se dit, comment on va copier? Et ce qu'on arrive à comprendre, c'est que cette copie, elle doit répondre à deux injonctions. Aller vite et être exact. Mais ces deux injonctions, elles se construisent toujours a posteriori, au fur des innovations technologiques. Donc moi, je commence avec le scribe antique. Le scribe antique doit copier un texte. Il y a le début de l'écriture, hein, c'est beaucoup de rapports économiques, de combien il y a de pots de graines dans les greniers, etc., etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que le scribe antique sait écrire, mais ne sait pas lire. Pas tous, hein, mais une bonne partie ne savent pas lire. Donc ils sont vraiment des machines de copie. Moi, ça me faisait directement penser à Bartleby dans La Nouvelle de Melville, où il peut faire que copier. Et quand on lui demande de faire autre chose que copier, il dit « I would prefer not to », qui est pour moi l'équivalent aujourd'hui de « erreur 404 », « je ne veux pas le faire, donc je le fais pas ». Et ce qu'on arrive vraiment à comprendre, c'est que la copie, à partir de la modernité et à partir de l'invention de la photographie, cette copie, elle va être travaillée par le médium photographique. Pourquoi ? Parce que photographier, c'est copier, mais vraiment beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus économique. Et donc, si on fait une archéologie des médias, tant de la copie manuscrite que de la copie photographique, on se rend compte qu'au bout d'un moment, ça se mélange. Avant le copier-coller, il y a quelque chose qui s'appelle les photocopieurs. Que sont les photocopieurs ? C'est de la photographie de texte qui a révolutionné l'histoire de la culture. Et on peut parler d'une Xerox culture en référence à cette grande firme Xerox qui faisait des photocopieurs. Et à partir du copier-coller, pour moi, c'est un moment de cristallisation de la rencontre de l'écriture et de la photographie qui aujourd'hui est encore démultiplié par de nouvelles inventions. Moi, je me suis arrêté à un temps T, qui est le temps copier-coller.
Vous voyez, vous avez commencé avant l'invention de l'imprimerie, par les Chinois ou par Gutenberg, avec les copistes. Et au fond, on pourrait s'arrêter aussi sur un autre moment très important de l'imprimerie, qui aura duré une trentaine d'années, qui aura permis des aventures de presse comme Libération ou Le Quotidien de Paris, qui se sera terminé au fond avec l'arrivée du numérique, mais qui n'était rien d'autre qu'une photographie de colonnes de texte composées, c'est-à-dire qu'on sortait de la composition au plomb pour avoir cette technique de photocomposition de la presse, où ce n'était ni plus ni moins que des photographies de colonnes de texte, en fait.
Oui, et puis il y a eu l'offset, etc., qui vont permettre, et si on remonte à la manière dont est fait l'offset, c'est un dispositif quasi photographique, hein. Et je pense que c'est ça qu'il s'agit de prendre en compte. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, donc le copier-coller, c'est plus ou moins inventé, parce que c'est toujours une invention à une multi-paternité ou à une multi-maternité. Le copier-coller, c'est inventé par Larry Tesler. Qui travaille avec Xerox.
On aurait pu faire sponsoriser l'émission par Xerox, je crois. On va parler d'imprimante tout à l'heure et le rôle de Xerox est également évidemment fondamental.
Et central. Et donc Larry Tesler travaille chez Xerox, un photocopieur, et il lui dit clairement, il dit, mais en fait, moi, j'ai compris le copier-coller parce que je travaillais dans la presse. Et je me rendais compte qu'on faisait des colonnes, mais dès qu'on devait faire une modification, c'était l'enfer, parce qu'il fallait vraiment couper une partie du texte et le recoller si on faisait des recompositions. Il s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas automatiser tout ça ? Donc le copier-coller, le lien avec la presse que vous faites, il se retrouve déjà dans l'invention même du dispositif.
Alors parlons un peu des conséquences. Par exemple, dans la presse, l'une des conséquences du fait de couper à coup de cutter ou la fin des textes fait que, par exemple, quand on est journaliste britannique ou américain, on sait qu'il faut commencer par mettre l'information la plus importante au début de l'article, parce que comme ça, on peut couper en partant du bas pour ajuster la longueur de l'article à la place qu'il y a dans le journal. Les journalistes français n'ont toujours pas compris, mais parce qu'il faut en général arriver à l'avant-dernier paragraphe pour trouver l'information importante. Mais en tous les cas, ça a été structurant, cet aspect technologique, dans la manière dont le style journalistique s'est formé. Aujourd'hui, le copier-coller, quel type d'effet il a sur la manière qu'on a d'écrire, Alain de Neuville ?
Vous voulez dire de manière d'écrire de manière générale ou journalistique ?
De manière générale, vous avez beaucoup travaillé sur la poésie, on va pouvoir y revenir, mais peut-être commençons de façon très générale, en fait.
Sur la manière générale, encore une fois, on écrit d'une autre manière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de plus laisser un texte se faire traverser, de prendre le temps de le réfléchir, de le reformuler, de l'accepter ? Pour moi, déjà, il y a une première conséquence qui est une conséquence sociale. Qu'est-ce que le copier-coller ? C'est une façon d'écrire sans faire de faute, de bien écrire. Et moi, je le vois avec mes étudiants, et peut-être qu'on pourra en parler avec nos autres invités qui sont aussi enseignants. On voit nos étudiants qui écrivent de plus en plus, soit avec du copier-coller. D'ailleurs, avant, on disait un devoir bâclé, c'est du copier-coller. Copier-coller de Wikipédia. Ou alors...
Oui, c'était péjoratif, le copier-coller.
Oui, ça l'est toujours. Hein. Mais aujourd'hui, on les voit aussi écrire de plus en plus avec des intelligences artificielles. Ils font que copier-coller un texte provenant d'une intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que ça fait à la pensée, cette manipulation d'un texte qui n'est pas forcément le même, etc. Moi, ce que je prône, en me disant, en fait, il faut arrêter ce fantasme de se dire que la bonne solution, ce serait de supprimer les IA, de supprimer le copier-coller, que la vraie pensée, c'est la pensée à la Jean-Paul Sartre, ou à la Michel Foucault, qui écrivait. Se rendre compte qu'il y a une réalité, et que nos étudiants utilisent ça et que la plupart de la société l'utilise. Qu'est-ce qu'on fait d'un point de vue concret pour permettre une pédagogie ? Je pense que les outils ne sont pas mauvais en tant que tels, mais une vraie pédagogie du copier-coller est nécessaire. Si vous êtes juste dans l'interdiction à vous dire « c'est horrible, les jeunes ne savent plus penser », vous ne les aidez pas non plus à penser. Le copier-coller, et c'est pour ça qu'on reparlera peut-être de la poésie, moi, il me semble que bien maîtrisé avec une bonne pédagogie, ça vous permet d'avoir une connaissance accrue du texte. Je m'explique. Cette thèse de doctorat, à un moment de ma vie, j'ai fantasmé de l'écrire en copier-coller. En me disant, voilà. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile de l'écrire en copier-coller que de l'écrire vraiment. Pourquoi ? Parce que quand vous faites un copier-coller, l'important, c'est de, à part en poésie, mais on en reparlera, c'est de masquer ce copier-coller. Et donc, vous devez réussir à comprendre et avoir une logique de compréhension interne de la construction du texte pour que les passages copier-coller ne se retrouvent pas. Vous avez un grand théoricien de la littérature, Antoine Compagnon, qui parle de la seconde main et il écrit sur la citation. Et il dit, la citation, en fait, c'est comme une greffe. Vous devez greffer quelque chose. Mais le problème de la greffe, si on prend d'un point de vue médical, comment je fais pour que ma greffe ne se voit pas? Parce que si vous vous faites greffer un rein, vous n'avez pas envie que, de ressembler à Frankenstein. D'ailleurs, c'est un peu à la mode Frankenstein avec la nouvelle série qui vient de sortir. Mais comment vous faites pour travailler cette greffe? Et le copier-coller, c'est ça. Si vous n'avez pas une compréhension logique du texte et de cette logique interne, vous n'y arrivez pas. Mais donc, ce qu'il faut apprendre peut-être aux étudiants, c'est cette compréhension du texte, cette finesse, comment ça s'agence, comment on empêche les ruptures, comment on doit vraiment, vraiment comprendre ce qui s'y passe.
Alors, comment expliquer que la mythologie de l'écriture, presque à la plume, avec une bougie, cette espèce de mythologie perdure, alors même qu'elle ne correspond plus du tout, qu'elle a sans doute peut-être jamais correspondu exactement d'ailleurs à la manière qu'on avait d'écrire, en copiant, en collant autrement, de façon encore plus matérielle, aujourd'hui on le fait de façon numérique. Ça reste mystérieux, certainement pas très pédagogique, en fait, de s'attacher à cette mythologie. Et je pense qu'il faudrait peut-être, derrière les mots copier-coller, derrière les verbes copier-coller, en chercher d'autres. Parce que copier, c'est cadrer, au fond. Quand vous dites, tout à l'heure, je vais prélever des extraits de texte, ben vous faites, si on reste dans l'univers photographique, un cadrage de ce que vous voulez prélever, en quelque sorte, de ce texte. Et puis coller, c'est composer, au fond, parce que vous n'allez pas coller n'importe où le morceau prélevé. Donc, au fond, cadrer, composer, ce sont des verbes qui sonnent beaucoup plus créatifs que copier-coller. On ne peut pas dire à quelqu'un, ah ben c'est juste cadrer-composer, votre truc. Ça souligne la dimension profondément créative de cette activité, Alain de Neuville.
Oui, effectivement, et c'est là aussi où moi, ça m'a semblé très intéressant de parler de la photographie pour parler de ces écritures. C'est de dire, on se défait du fantasme de l'écriture et vous demandez pourquoi on l'a. Je pense qu'une des grandes raisons, c'est que nous sommes français.
C'est particulièrement prononcé en France.
C'est particulièrement prononcé parce qu'on a eu une bonne partie d'intellectuels qui ont marqué, et à juste titre, l'histoire intellectuelle française, qu'on parle de Barthes, qu'on parle de Derrida, qu'on parle aussi de la psychanalyse, hein, cet héritage intellectuel nous a fondamentalement marqué sur l'écriture, l'écrit, sur
l'auteur.
Et sur la métaphysique de l'écrit. Mais en fait, d'autres traditions culturelles n'ont pas cela. Moi, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de dire, OK, on dit que pas que c'est de l'écriture, on dit que c'est de la photographie. Aujourd'hui, il n'y a personne pour dire la photographie, c'est pas de l'art. Tout le monde est assez d'accord qu'on a des grands, grands photographes. Donc, me dire, ben voilà, on va faire de la photographie avec du texte. Et donc, à partir de là, il y a comme une sorte de nouvelle façon d'envisager l'écriture et de nouveaux termes. Vous parlez de cadrer, vous parlez de composer. Moi, je pense qu'on pourrait même quasiment penser à du travelling de texte. On peut penser à énormément de choses parce qu'on applique le domaine de l'image. Et si on applique le domaine de l'image, on ne rentre pas en concurrence juste avec l'écriture. On peut très bien dire, l'écriture, c'est fondamental. Savoir écrire, bien composer une pensée, la réfléchir, argumenter, c'est fondamental. Mais il y a aussi autre chose qui s'appelle du cadrage de texte, de la contextualisation, du collage, parce qu'on n'a pas, il faudrait parler aussi de ce collage, mais qui est en rapport concrètement avec des notions comme le film de montage. Plutôt que de coller, on devrait parler de montage de texte. Et en fait, le montage, comme le disait Godard, c'est peut-être l'essence du cinéma. C'est là où se passe le cinéma. C'est quoi un montage de texte alors? Comment on monte un texte?
Sans parler du hors-champ auquel on vient de consacrer une émission avec Marie Kondrat, qui vient de publier un livre sur cette question et qui montre bien comment on va du cinéma à la littérature avec cette notion de hors-champ. Alors vous êtes particulièrement intéressé, c'était quand même une thèse de littérature, à la poésie, mais pas à n'importe quelle poésie. Par exemple, à des livres de poésie qui sont pas les moins intéressants, à mon sens, aujourd'hui, qu'au fond, on n'a pas besoin de lire. Des livres de poésie conceptuelle, donc pour lesquels ce qui compte est simplement le concept. C'est-à-dire de la même façon qu'on n'a pas besoin, face à une œuvre d'art plastique conceptuelle, de la regarder pendant des heures ou sous toutes les coutures. On a compris l'idée. Et c'est ce qui compte. Eh bien, il y a des poètes qui procèdent exactement de la même façon. Évidemment, Kenneth Goldsmith, que vous citez beaucoup, mais un certain nombre d'autres, Alain de Neuville.
Oui, et ça me semble aussi quelque chose de très important, cette manière de revoir la poésie actuellement, en se demandant qu'est-ce que c'est que la poésie. Sur cette question de non-lecture, effectivement, les poètes conceptuels, pas tous, hein, mais certains n'ont pas besoin d'être lus. Mais en fait, c'est aussi... Ça nous permet de questionner aussi notre manière de produire des textes aujourd'hui.
C'est d'une grande subversion, cette idée dans cet univers très français de l'écriture et de la lecture.
Oui, et en même temps, il y a toute une tradition de poètes français qui ont fait ça. Hein. Moi, je suis un fan absolu d'un poète français qui, à mon sens, un peu trop méconnu, qui s'appelle Emmanuel Hocquart. Emmanuel Hocquart avait créé des poèmes de la copie. Et il dit, mais en fait, quand je copie, je ne fais pas juste écrire, mais je ne fais pas juste copier. Je fais quelque chose d'autre. Donc, on a une tradition française qui est bien installée, des poètes aussi actuels, je pourrais penser à Christophe Anna, à Franck Lebovici, qui vont travailler cette recontextualisation de texte. La seule différence, il me semble, c'est que il y a une tradition très états-unienne autour de Kenneth Goldsmith qui va se dire « Ah, mais en fait, la littérature, ça a 50 ans de retard sur l'art contemporain. L'art contemporain fait déjà des ready-made. Donc nous, on préfère pareil. » Ce qui me semble peut-être une conceptuellement un peu plus pauvre que la tradition française, je dirais, donc avec ces poètes qui sont réunis entre autres autour des éditions Questions théoriques, qui ont été tous plus ou moins élèves de Jean-Marie Glaize, grand poète et enseignant français, qui vont se dire, mais en fait non, la littérature n'a pas à suivre le chemin de l'art contemporain, elle peut inventer de nouvelles voies. Et la copie, c'est pas juste un ready-made textuel, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est autre chose? Comment on crée des documents poétiques, pour reprendre les termes de Franck Lebovici, pour amener à autre chose?
On peut se poser dans ce contexte aujourd'hui la question de l'IA dans tout ça. Parce que, évidemment, on le voit bien, il y a là aussi des contrastes saisissants selon les domaines de la création. On parlait à l'instant des arts plastiques comparés à la littérature, mais on peut prendre l'exemple de la musique. Depuis les années 60, les musiciens contemporains, les plus respectés, les plus expérimentaux, se servent de l'IA ou de proto-IA pour travailler. C'est le cas notamment de Xenakis, évidemment. Mais on voit bien que l'IA, accessible aujourd'hui très largement, provoque des formes de panique morale dans le monde littéraire. On voit des essais fleurir partout, qui concernent les jeunes qui ne vont plus savoir écrire parce qu'il y a l'IA, mais qui concernent aussi la littérature, qui ne pourrait produire que de très mauvais romans grâce à l'IA. Que dire de cette espèce de contraste, au fond, dans le rapport à l'outil? Je pense que votre livre, votre démarche, devrait permettre aux gens qui ont un rapport professionnel à l'écriture de dégonfler un petit peu cette panique morale qu'on observe principalement dans l'univers littéraire, Alain de Neuville.
Oui, cette panique morale, mais je voulais rebondir sur l'IA et le copier-coller, parce que le lien me semble assez concret. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, si vous voulez reformuler un texte, moi ça m'arrive, j'ai beaucoup de mails à écrire, des fois... Un peu d'IA, ça aide. Donc, je donne des notes, etc. Et quand vous copiez-collez un texte, par exemple, de Word sur ChatGPT, pour le nommer, ChatGPT vous affiche une photo. Vous avez votre texte et vous avez une photo. C'est-à-dire que le lien entre le copier-coller et la photographie, qui pour moi était au début quelque chose d'assez poétique, d'assez conceptuel, se cristallise vraiment avec les IA.
Se matérialise technologiquement.
Quand vous faites un copier-coller, ChatGPT comprend une photo et vous montre une photo. Donc ça me semble assez... Ça m'a permis de confirmer mes hypothèses et j'en étais très content. C'est la première fois que je vais le dire de ma vie. Merci ChatGPT. Ensuite, sur cette panique morale, effectivement, mais on a ça si on fait un peu d'archéologie des médias, donc c'est regarder comment les médias sont reçus, quelles sont leurs histoires, etc. On voit très bien que cette panique morale arrive directement. Je vais pas vous faire la liste, mais le cinéma, au début, était censé rendre les femmes hystériques, c'est les termes de l'époque, on va les garder. Les jeux vidéo étaient censés créer des jeunes à faire que des attentats ou à vouloir tuer. Même si, quand vous trouvez le livre de poche, c'était horrible, l'invention du livre de poche, parce que ça allait donner le savoir c'était de donner de la confiture aux cochons, parce que le peuple pourrait lire. Mais en fait, vous avez ça. Vous remontez directement. Et on peut même remonter à un des pères fondateurs, qui s'appelle Socrate, qui, dans un livre de Platon, critique l'écriture en disant « Mais l'écriture, ça va être horrible, les gens vont perdre la mémoire, ils ne sauront plus jamais rien se rappeler, etc. » En fait...
Ça, c'est des raisonnements qui résonnent très fort aujourd'hui.
Voilà, qui résonnent très fort aujourd'hui. Et pour moi, après, l'autre côté, c'est de ne pas diminuer non plus les risques qu'on court face à des technologies. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai vraiment appris, pour moi, d'un théoricien que je considère aussi comme un ami, qui s'appelle Yves Citon, qui m'a permis de comprendre qu'il faut réfléchir de manière beaucoup plus nuancée, à la fois être critique, mais en même temps voir les avancées, et toujours se trouver sur cette ligne de crête entre le noir et le blanc. Et et pas avoir peur d'être un petit poil à gratter. Et moi, ce petit côté poil à gratter, j'aime bien avoir fait une thèse de littérature, j'ai fait des études très sérieuses, etc., etc., mais en finir par défendre le copier-coller. Et le défendre dans une thèse de littérature générale et comparée, d'ailleurs, qui est très intéressant, c'est qu'elle a été refusée par le CNU comme qualification en section
le
littérature
Conseil
française.
National des universités.
Voilà. Mais c'est assez intéressant de jouer ce rôle de poil à gratter, de se dire, bah, l'IA, qu'est-ce qui se passe concrètement dedans? Quelles sont les avancées et quelles sont aussi des...
En gros, Alain de Neuville, il faut ouvrir les boîtes noires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement de danger. Il y a des choses très excitantes d'ailleurs, à voir l'IA se développer aujourd'hui, à la condition qu'on réfléchisse un peu, qu'on essaye de comprendre un peu comment ça marche, comment on peut s'en servir, qu'on expérimente aussi. L'expérience, c'est quelque chose de fondamental.
Oui, et en même temps... Et ce qu'il faut réfléchir, il me semble, c'est pas forcément juste au niveau des pratiques. Vous parlez d'ouvrir les boîtes noires. Moi, ce qui m'embête avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que ce soit des grandes entreprises américaines dont on connaît le virage politique qui s'en utilisent. Est-ce qu'à quand une des intelligences artificielles européennes souverainement, avec des principes démocratiques, etc., etc. Mais au niveau des pratiques, c'est exactement la même logique que le copier-coller. Pourquoi mes étudiants utilisent de l'intelligence artificielle? Parce que ça leur permet d'écrire sans faire de faute. Et voilà, pour eux, c'est une question aussi sociale. On a une éducation qui s'est ouverte, et il y a des outils qui apparaissent, c'est aussi un gain de temps, c'est aussi énormément de choses. Et je pense qu'il faut réfléchir non pas que les pratiques, mais les conditions de production sociale du savoir et de l'apprentissage, pour se dire, en fait, pourquoi? Et si on ne veut pas qu'ils l'utilisent, qu'est-ce qu'on met en place plutôt que de la simple interdiction, mais de la réflexion, des moyens pour l'enseignement supérieur et la recherche, énormément de choses qui peuvent contrebalancer la simple utilisation et l'absence de pédagogie sur l'intelligence artificielle.
On va avoir l'occasion de parler avec nos invités de la deuxième partie, les auteurs de Bourrage Papier, à propos de cette question de la pédagogie et du rapport à l'IA en particulier. Mais avant ça, j'aimerais, Alain de Neuville, qu'on dise un mot quand même de l'autre livre que vous signez et qui paraît donc aux éditions de l'INA, OSINT, Enquête et Démocratie. Donc l'OSINT, pour résumer, c'est cette manière de pratiquer des enquêtes à distance en se servant d'outils numériques qui permettent à ceux qui enquêtent de le faire sans physiquement se déplacer. On peut le caractériser comme ça?
Oui, c'est des enquêtes en sources ouvertes, c'est-à-dire tout ce que vous pouvez trouver en ligne pour faire des enquêtes. Ça peut à la fois vous permettre de documenter des crimes de guerre, ça peut à la fois vous permettre à des universitaires sur des terrains empêchés de pouvoir continuer. Je pense à tous mes collègues du Centre Géode qui travaillent sur la Russie et qui ne peuvent plus aller en Russie aujourd'hui. Comment ils peuvent continuer des enquêtes grâce aux sources ouvertes? Et ce qui me semble intéressant, c'est que c'est complémentaire du copier-coller. En fait, comment j'ai fait le lien entre les deux? C'est pendant que j'écrivais ma thèse, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Gala Hernandez-Lopez. Elle faisait une thèse sur la capture d'écran. Et on s'est dit, copier-coller, capture d'écran, on est fait pour se rencontrer et faire des grandes choses. On n'a peut-être pas fait des grandes choses, mais on s'est rencontrés. Et on avait produit des films à partir de vidéos sur YouTube. On a produit avec l'association qu'on a montée après les réseaux sociaux, le film de Gala qui a eu la chance de gagner un César, qui s'appelait La mécanique des fluides, qui était une enquête en ligne. Et donc, à partir de cela, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de choses à faire à partir du copier-coller, à partir de la récupération de vidéos sur YouTube, pour faire des enquêtes. Et donc, on a fait le lien entre les deux. Et cette dimension artistique, elle se retrouve aussi énormément dans le livre. Il y a tout un chapitre consacré sur l'esthétique des enquêtes aux Indes, qui, selon moi, pose aussi d'énormes questions aujourd'hui sur la fabrique de l'information, sur la désinformation, sur la polarisation de la société, sur la façon de dire le vrai par les formes visuelles, etc., etc. Et surtout, il me semble important, c'est que le livre donc s'appelle « OSINT, Enquête et Démocratie » et je suis très content qu'il soit publié par l'INA, parce que je pense qu'on a vraiment des convictions communes avec l'INA. C'est les dangers de l'OSINT. On est toujours face à une sorte d'enthousiasme face aux enquêtes en sources ouvertes, mais il y a énormément de dangers pour la démocratie à l'heure des ingérences étrangères et de la désinformation. Et ce livre est aussi là pour appeler un sursaut là-dessus et à une réflexion pédagogique dessus. Et peut-être juste le petit dernier lien avec le livre, c'est qu'à la fois dans mon premier livre, copier-coller, j'appelle à une pédagogie du copier-coller pour une pédagogie du copier-coller pour apprendre à vivre avec les autres hors de soi et en soi. Et pour Lozint aussi, moi, c'est vraiment je suis enseignant. La question de l'enseignement et de la pédagogie de Lozint aujourd'hui me semble une des priorités qui devrait structurer nos programmes de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Parce qu'on est face à un univers et à un monde informationnel en pleine mutation, très compliqué, et il faut des outils, et ces outils, c'est des outils méthodologiques que Lozint permet d'avoir.
Il y a une autre dimension de Lozint peut-être à souligner, Alain de Neuville, c'est son caractère transdisciplinaire ou indisciplinaire. Vous disiez tout à l'heure que vous ne rentriez pas dans les cases avec vos recherches, mais au fond, Lozint ne pourrait pas exister si ne travaillait pas côte à côte à produire Lozint des gens aux compétences extraordinairement variées. On trouve des architectes, des designers, des informaticiens, des sémioticiens, des spécialistes de l'image, d'autres du texte, des journalistes, des juristes. En fait, à chaque fois, les collectifs sont extraordinairement variés.
C'est des collectifs variés, des collectifs qui répondent les uns avec les autres, des personnes qui viennent de compétences métiers différentes. Lozint, ça vient du milieu du renseignement à la base. Hein. Donc entre le milieu du renseignement et certains copains qui travaillent sur les violences étatiques, les violences à la frontière, il y a un monde. Mais en même temps, ils sont réunis par une méthodologie. Et c'est peut-être un des points qu'on avait. Donc tous les ans, avec l'association Open Facto, dans laquelle je dirige le pôle recherche, on crée à la Gaîté Lyrique un festival de Lozint qui se tiendra cette année le 5 et 6 décembre. Et en fait, c'est ça, c'est de se dire, c'est tellement multidisciplinaire qu'on a besoin d'espace pour que les gens puissent se rencontrer. On a besoin qu'un journaliste et quelqu'un du service du renseignement puissent rencontrer un juriste qui rencontre quelqu'un qui travaille sur l'aide aux réfugiés dans une ONG, etc., etc. On a besoin d'espace pour discuter, et par cette transdisciplinarité, il y a quelque chose qui peut se créer, des discussions. Et là où moi je vais défendre ma chapelle, c'est que je pense que l'université a un rôle à jouer là-dessus. Et tout mon travail de recherche dans les deux livres, c'est de se dire comment on peut sortir un peu de la tour d'ivoire du chercheur et se confronter à la société, à ceux qui construisent de l'information, à ceux qui construisent des savoirs qu'on pourrait dire populaires différemment, et on doit être là pour ça. Donc c'est pour ça que Lozint, c'est vraiment un secteur social qui touche n'importe qui et qui touche n'importe quel citoyen. Parce qu'on, un petit détail, mais si vous stalkez votre ex, si par exemple je stalke la personne russe avec qui j'écrivais il y a quelques années des messages, je suis déjà dans Lozint. Si je veux savoir son devenir, sa vie actuelle, je suis dans Lozint. Donc tout le monde fait de Lozint.
Sans le savoir.
Sans le savoir, il faut de la pédagogie pour bien le faire.
Allez, assez de copier-coller, il est temps de passer à l'impression, ça ce sera pour la deuxième partie, mais c'est après un extrait d'un titre surprise, d'un titre surgi cette semaine, co-signé de deux archéologues des médias, on peut les qualifier comme ça, fondamentalement influencés par la cybernétique. C'est le premier morceau qu'ils écrivent ensemble depuis 1980, depuis un disque fondamental, My Life in the Bush of Ghosts. Je veux parler de David Byrne et de Brian Eno, qui sortent un morceau, T-shirt, qui s'intéresse à ce qui est imprimé précisément, ces slogans qu'on trouve sur les T-shirts.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bromeau. My beliefs are on this T-shirt. My religion's in my pants. My condition's on this iPhone. Everyone does what they.
Pomme C, pomme V, pomme P maintenant, on va imprimer avec bourrage papier, leçon politique d'une imprimante. C'est le titre du livre co-signé Mathieu Raffard, Mathilde Roussel. Bonjour à tous les deux. Un livre qui sort de votre atelier puisque vous êtes à la fois artiste et enseignant-chercheur l'un et l'autre. Et vous publiez ce livre au lien qui libère. C'est un livre qui est né d'une expérience qu'on a tous vécue, de la même façon qu'on fait tous des copier-coller sur nos claviers. On fait également tous des impressions sur des imprimantes personnelles depuis que ça existe. Et assez régulièrement, il faut le dire, ça marche pas, en fait. Et c'est de cette panne qu'est née votre réflexion.
Oui, tout à fait. Un jour, alors qu'on était en train de travailler sur les questions d'écologie, de lien au milieu, dans notre atelier, notre fidèle imprimante refuse d'imprimer. Et tout d'un coup, on se rend compte que cet objet si proche de nous, avec qui finalement on a beaucoup de liens, on ne le connaît pas du tout. Et s'ensuit toute une série de réparations assez compliquées. Et à partir du moment où on est face à cet objet et qu'on comprend que la relation qu'on a avec cet objet a été altérée, perdue, enfin en tout cas qu'une partie de cet objet ne s'adresse plus véritablement à nous, c'est à partir de ce moment-là qu'on décide de mener l'enquête sur cet objet.
Mathilde Roussel, pour mener l'enquête, vous avez d'abord commencé par récupérer des imprimantes, elles aussi en panne, abandonnées sur les trottoirs, et vous en avez accumulé un certain nombre avant de les désosser, de comprendre comment ça marche.
C'est ça, en fait, comme c'est un objet extrêmement obsolescent, avec une obsolescence programmée, on en trouve un peu partout dans la rue, c'est des objets qui sont pas chers, les consommables en revanche
les
sont extrêmement chers.
Ça coûte très cher.
Voilà, les cartouches donc, sont très chères, mais les objets imprimantes, dès qu'ils tombent en panne, sont laissés dans la rue, donc on en a récolté pas mal, et on a commencé par en démonter une première, et quand on a démonté cette boîte noire, cette imprimante, on s'est rendu compte que chaque composant à l'intérieur de cette imprimante était recouverte de textes, d'inscriptions alphanumériques qui ne nous semblaient pas adressées, qu'on ne savait pas déchiffrer, qu'on ne pouvait pas comprendre. Et donc on a essayé de trouver des moyens d'interpréter cette écriture.
Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est tout simplement de récolter, de copier-coller, ou plutôt de prélever, composer, toutes les inscriptions à l'intérieur de cet objet et de les redéployer dans l'espace de lecture.
Et donc, vous avez produit quel résultat à l'arrivée ? Vous êtes parvenu à comprendre...
Alors, on n'est pas parvenu à comprendre la signification de ces inscriptions qui sont probablement des normes, des logos, tout un tas de suites de chiffres et de lettres. Mais on a fait appel à une démarche un peu plus ésotérique. On a mis en place une stratégie plus divinatoire pour essayer de comprendre ces textes.
Et donc, en fait, là, l'idée, c'était de se dire, si les textes, on ne parvient plus à les comprendre, on ne parvient plus à les lire, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, par ailleurs, leur donner une forme de signification. Donc, on est parti du principe que c'était des données aléatoires et que ça pouvait fonctionner comme un tirage du Viking, par exemple.
Donc ça, c'est ce qu'on a appelé l'aruspicine technologique, qui vient de l'idée d'aruspicine, qui était l'art divinatoire de l'Antiquité, qui consistait à interpréter les entrailles d'un animal qu'on venait de chasser. On l'a appliqué à cet objet imprimante et à ses entrailles, à ses composants, en tentant de lire dans ses composants ce qui pouvait nous annoncer dans le futur. Donc évidemment, c'est de l'ordre de la fiction. C'est pas une.
Voilà, c'est une enquête, on l'a compris, qui a une dimension artistique également très, très importante. Mais de la même façon qu'Alain de Neuville, vous aussi, vous faites de l'archéologie et de l'archéologie des médias. C'est-à-dire que les imprimantes telles qu'on les connaît aujourd'hui, ça vous a semblé important de les replacer dans une assez longue lignée d'imprimantes.
Tout à fait. En fait, c'est vrai que quand on observe cet objet, assez rapidement, en le démontant, on reconnaît ce que Gilbert Simondon appelle des schèmes techniques et on peut voir apparaître de ci, de là, une autre histoire de l'imprimante que celle qu'on semblait avoir connaître de manière un peu intuitive. Et dans ce cadre-là, un des objets qui nous a intéressés, c'est un peu un des ancêtres de l'imprimante de bureau, on peut dire d'une certaine manière, c'est l'imprimante sélectrique qui a été développée par IBM dans les années 60. Donc la machine à écrire, j'ai dit imprimante, mais c'est une machine à écrire. La sélectrique d'IBM, c'est une machine à écrire qui est motorisée avec un petit moteur électrique, mais qui a la particularité d'encoder chaque touche avec un petit dispositif qui s'appelle le WeFoldTree, qui encode en utilisant un langage binaire chaque lettre de l'alphabet. Donc c'est une première forme en fait, d'encodage, on pourrait dire numérique, de l'alphabet, mais en passant par un petit mécanisme tout à fait mécanique.
Tout à fait analogique.
Alors, si je vous ai bien lu, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'IBM a assez rapidement récupéré des inventions. Le rôle de Xerox est fondamental. Au fait, les imprimantes telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont dérivées des photocopieuses.
Les imprimantes laser, oui. Les imprimantes
jet d'encre, non. Voilà. Ça, c'est une autre société. C'est pas Xerox qui la développe au départ.
Oui, tout à fait. Et les imprimantes les plus obsolescentes, ce sont les imprimantes jet d'encre. Celles qui sont laissées dans la rue, qui sont abandonnées, c'est en grande partie des imprimantes jet d'encre.
Mais ce qui, au fond, il n'y a pas un devenir obsolescent mécanique, j'allais dire, ou déterminé de l'imprimante, dès lors que, dès ce moment-là, le fantasme du monde informatique, et on le voit dans des publicités, c'est le zéro papier. C'est-à-dire que le numérique nous encourage à aller vers un monde où on n'a plus besoin d'imprimer. Donc les imprimantes, c'est quelque chose déjà en soi, c'est une sorte d'aberration historique d'une certaine façon.
Oui, c'est vrai que quand on regarde cette histoire de l'imprimante qui a été développée finalement comme un périphérique à l'ordinateur personnel, quoi, au PC, on se rend compte qu'il contredit presque le projet de l'ordinateur personnel. Et leur survivance, la survivance des imprimantes jusqu'à aujourd'hui, peut soulever énormément d'hypothèses sur notre relation à l'écrit et au papier.
Et d'ailleurs, parce qu'il y a eu beaucoup de projections, à un moment, on s'est imaginé dans le monde de l'édition de livres, par exemple, qu'il y aurait beaucoup plus que ce n'est le cas vraiment aujourd'hui, de livres à la demande, d'imprimantes, qu'on sortirait de la production industrielle de livres pour adapter les besoins aux demandes. En fait, on s'aperçoit que c'est marginal dans l'industrie de l'édition aujourd'hui.
Oui, c'est tout à fait. Il y a de moins en moins. Enfin, il y a pas. On ne lit pas moins sur des livres en papier qu'avant. On n'imprime pas moins. On a toujours besoin, dans différents contextes, d'imprimer. Voilà, on le sait. Pendant le Covid, d'ailleurs, il y a eu une vente d'imprimantes qui a augmenté radicalement parce qu'on avait besoin d'imprimer.
Et les gens n'avaient pas accès à leurs imprimantes au travail, donc ils avaient besoin d'imprimantes chez eux, probablement.
Voilà, c'est ça. Donc, on a toujours besoin de la dimension papier pour lire des textes, pour les...
Ça vous conduit d'ailleurs, tous les deux, dans le livre, à aller vers l'invention de sa propre imprimante. Après avoir démonté des imprimantes, vous vous posez la question de savoir si on peut construire sa propre imprimante.
Ouais, ça vient à la suite de la frustration liée à la panne de notre imprimante. On s'est posé la question, on s'est demandé si on pouvait nous-mêmes construire notre imprimante utopique qui serait plus éthique, qui serait moins polluante,
durable,
qui serait durable, féministe. Et donc on a tenté de construire cette imprimante par nous-mêmes, ce qui a posé un certain nombre de questions.
Donc ça, c'était une partie qui était un peu comme une performance de bricolage, quoi. C'était de se poser la question, cet objet, est-ce qu'on est véritablement capable d'en construire une copie ? Et sans passer par des savoir-faire tierces comme ceux d'ingénieurs qui auraient pu travailler pour nous. Donc on s'est vraiment dit, de manière naïve, on va construire une imprimante et une imprimante parfaite, utopique. Et cette imprimante, comme tous les rêves un peu utopiques, elle s'est vite révélée à la fois fantastique et décevante. Puisqu'en fait, elle fonctionne avec des encres qu'on fabrique nous-mêmes et qu'on récolte à partir de matières premières qu'on récolte directement dans la rue, mais elle imprime extrêmement lentement. Il faut plus d'une dizaine d'heures pour imprimer une image.
Alain de Neuville, le pomme P, après le pomme C, pomme V, pour vous, c'est...
Oui, ça va directement dans la continuité. D'ailleurs, on pourrait être étonné pour une petite anecdote sur le pomme P. Contrôle C, c'est contrôle copie, mais pourquoi ça n'a pas été contrôle P pour coller? Parce que V, ça renvoie rien. Coller en anglais, c'est paste. Donc, ça aurait dû être le contrôle P, mais à cause de l'impression
c'était
et de l'imprimante, c'était déjà pris. Mmh. Alors que ça aurait été parfait. Mais peut-être pour rebondir sur le travail de Mathilde et de Mathieu, moi je suis très admiratif de ce qu'ils font, de leur travail, parce que là c'est un livre, mais il y a aussi des expositions, il y a des performances, et c'est vraiment un travail qui me semble être au cœur à la fois de ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans la recherche-création, hein, cette manière de mélanger la recherche et la création, mais aussi au cœur de ce qui se fait de mieux dans l'archéologie des médias. C'est-à-dire vraiment remonter à la fois conceptuellement, poétiquement, philosophiquement sur les médias, et je trouve qu'ils sont vraiment à la pointe de la pointe.
La dimension pédagogique dans tout ça, parce que Alain Deneuil en a beaucoup parlé tout à l'heure, vous êtes tous les deux enseignants également. Qu'est-ce que vous avez pu faire avec une expérience comme celle-là, avec les imprimantes, avec vos étudiants et étudiantes?
Alors, on enseigne un cours autour, et qui fait l'objet d'un petit livre d'ailleurs, qui s'appelle « À contre-emploi ». On enseigne un cours qui, dans lequel il s'agit de démonter, de performer des gestes artistiques qui puissent, dans une logique de faire critique, faire connaissance avec des différents objets technologiques. Donc, nos étudiantes et étudiants choisissent un objet, que ce soit le clavier, que ce soit une IA ou un réseau social, et tentent de à la fois le démonter, à la fois écrire des manifestes, le schématiser, tente vraiment de montrer le réseau d'agentivité aussi qui entoure cet objet, c'est-à-dire comment il a été fabriqué, comment il sera recyclé.
Un objet qui peut aussi bien être du hardware que du software, en fait. La dimension matérielle importe peu.
Tout à fait. L'enjeu numéro un pour nous, c'est de transmettre aux étudiants et aux étudiantes des autorisations, en fait, s'autoriser à s'intéresser à ces objets-là, qu'ils soient hardware ou software, pour développer une forme de curiosité à l'endroit de ces objets. Souvent, par rapport à cette question-là, on parle de remettre du jeu dans les objets technologiques. Remettre du jeu, ça veut dire simplement remettre de la relation, jouer avec les objets technologiques, et remettre du jeu, remettre de la première personne, c'est-à-dire retrouver sa place dans le réseau d'agentivité auquel on appartient avec l'objet technologique.
Merci beaucoup, Mathilde Roussel, Mathieu Raffard. Bourrage papier, leçon politique d'une imprimante, le livre paraît au lien qui libère. Copier-coller d'Alain Deneuville, le tournant photographique de l'écriture numérique, c'est chez UGA Éditions. On trouve toutes les références bibliographiques sur la page de La Suite dans les Idées.
France Culture, La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmont.
Actualité cette semaine d'une revue, le numéro 99, d'une revue importante, Raison politique, co-dirigée par Sandra Laugier, philosophe, et Fabienne Brugère, philosophe également. Fabienne Brugère est avec nous. C'est un numéro consacré à l'écologie vue dans la tradition du Caire, sur laquelle et Sandra Laugier et vous avez beaucoup travaillé. C'est un numéro dont le sommaire donne à lire des articles rédigé par des gens qui publient depuis longtemps sur cette question, Pascal Molinier, Sandra Laugier, vous, Catherine Larère, et puis de plus jeunes chercheuses également.
Oui, je crois que la question de l'écologie, elle est nécessairement intergénérationnelle, tout comme la question du Caire. Parce qu'en fait, l'éthique du Caire, elle naît dans les années 80, à partir du texte de Carole Gilligan, Une voix différente. Et puis, on peut dire que dans les années 90, ce qu'on pourrait traduire par la question du prendre soin, par la question des pratiques du prendre soin, s'ouvre vraiment à des questions non plus de soucis des autres, mais à des questions qui mettent en avant ce qu'on pourrait appeler un souci de l'environnement ou un souci de la nature ou un souci de la terre. Et ce moment où l'éthique du Caire s'ouvre à l'environnement, c'est pas simplement le passage, par exemple, de la question de l'hôpital, de la question de l'espace domestique, de la question du travail social, toutes ces questions-là qui sont concernées par le Caire. C'est pas le passage à l'environnement, c'est le fait que les deux choses sont liées. Elles sont liées par la question des pratiques de Caire. Et donc, ce qu'on a mis, du coup, au centre du numéro, et ça aussi, c'est intergénérationnel, c'est à la fois la question des milieux, parce qu'après tout, nous évoluons dans des milieux, et donc les milieux, ce sont des milieux humains, mais ce sont aussi des milieux non humains, et ces milieux, ils mettent en œuvre tout le domaine de ce qu'on pourrait appeler la continuité de la vie. Et puis de l'autre côté, nous avons voulu aussi insister dans les questions d'environnement sur le terme d'attachement. Moi, je me souviens très bien, par exemple, j'ai habité 15 ans dans la région bordelaise. Je me souviens que dans les années 2000, il y a eu une grosse marée noire qui est apparue, un pétrolier qui a déversé tout son pétrole. Ça a apparu sur les côtes du Médoc. Et je me souviens que c'était bien une question d'attachement. C'est-à-dire, en voyant ces plages noires, bah forcément, j'étais en relation. Et donc, cette éthique relationnelle du Caire, on voit bien comment elle n'est pas seulement la question du souci des autres, du souci de soi, mais elle est aussi la question du souci de notre environnement, de notre nature, de la terre. Et là-dessus, il y a des termes qu'on peut discuter. Et donc, c'est ça qu'on a voulu mettre en avant, avec le fait que, de ce point de vue-là, l'éthique du Caire, elle est à ce moment-là forcément en discussion avec l'écoféminisme.
L'écoféminisme, et elle pose la question des relations entre humains et non-humains, parce qu'on associe spontanément le Caire aux soins des humains vers les humains, mais évidemment, tout ce numéro consiste à élargir la perspective à la question du soin pour les non-humains, qu'il s'agisse des plages ou des côtes dont vous parliez, ou des animaux, par exemple.
Oui, c'est essentiel. Il y a un article donc de Karen Warren en 1990 qui explique justement comment, sur les questions de care, on doit justement introduire l'écoféminisme et l'idée, finalement, on pourrait dire, d'un parallélisme des oppressions. L'oppression des femmes dans un système patriarcal, mais aussi l'oppression ou l'exploitation de la nature. Et donc, ce qui est mis en avant à ce moment-là avec l'écoféminisme, c'est tout un traitement de la violence à partir de toutes les lectures qu'on peut faire après de ce qu'on peut appeler les féminicides, mais justement aussi les écocides. Et donc ce que le Caire, ce que l'écoféminisme met en avant, c'est toute la question du bon traitement des vulnérabilités.
Il y a une figure à laquelle j'ai beaucoup pensé en lisant certains des articles du numéro, qui n'apparaît pas en tant que tel, mais son petit-fils vient de lui consacrer un livre formidable sous le titre de Fessenheim. C'est évidemment Françoise Daubonne, à qui on doit le terme d'écoféminisme, mais aussi celui de sexicide, qui deviendra féminicide. C'est pas rien, au début des années 70. Et la question de la violence, elle l'a reposée autrement. Je vous invite aussi à lire ce livre de David Dufresne qui vient de paraître. Mais dans ce numéro, on trouve, je le disais, différentes générations de chercheuses. Vous-même, vous consacrez un article à l'écoféminisme. Sandra Logier revient sur les questions du Caire. Peut-être on peut s'arrêter sur des travaux moins connus encore, celui de Lena Zilberzahn, qui a soutenu récemment une thèse, me disiez-vous, et qui publie un article sur réciprocité et restitution.
Ben, je pense que dans ce numéro, Lena Zilberzahn elle part pas du logiciel du Caire et de la question des relations entre les humains. Elle part vraiment de la question de l'interdépendance des espèces. Et donc, à partir de là, elle essaie d'agencer cette question du prendre soin. Et donc, d'une certaine manière, je dirais qu'elle pousse plus loin ce qui est une certaine horizontalité du Caire. C'est-à-dire que l'éthique du Caire, elle se définit dans l'idée de modifier les structures asymétriques entre un soignant et un soigné, de faire que le soigné, il ait vraiment une possibilité de réponse qu'on puisse introduire la réciprocité. Elle, ce qu'elle fait, c'est introduire de l'horizontalité dans la relation entre les espèces, justement, et à partir de la notion d'interdépendance. Parce que, précisément, nous sommes toutes et tous liés, mais toutes et tous, c'est pas seulement humain, c'est humain et non humain. Et de la même manière, l'article de Bénédicte Gatter, qui est de la même génération, explore en fait la possibilité de ce qu'elle appelle un nurse care, vraiment un
soin de la terre.
Voilà, un soin de la terre.
De la planète Terre.
Voilà. Et donc, comment on repart même de la question des sols, finalement de la vie, d'une terre nourricière, parce que c'est ça aussi qui est à la base de ces articles, c'est de reconnaître toute l'activité qui se joue dans les sols, dans la terre, et le fait que tout cela se comprend à travers une continuité de la vie, qui n'est pas seulement la vie humaine, hein, mais qui est aussi toutes les formes de vie non humaine.
Il y a un article qui prend la forme d'une enquête aussi sur les figures du Caire en grande culture, un article de Margot Alarcon.
Oui, cet article est important parce qu'il définit la possibilité d'un Caire agricole. Et l'idée de ce Caire agricole, c'est que c'est toute une conception de la ferme. En fait, si on prend une ferme, eh bien, c'est un tissu relationnel. C'est un tissu relationnel qui fait que le travail des agriculteurs et des agricultrices, c'est un travail avec, c'est un travail dans, avec justement les animaux, avec justement tout ce qui relève des plantes. Et donc, il y a là aussi toute l'idée d'un système relationnel qui serait justement le plus horizontal possible.
Le numéro se conclut par un article de Catherine Larère, à qui on doit beaucoup de textes importants, toute seule ou avec son mari, Raphaël Larère. D'ailleurs, j'ai remarqué que le texte de Sandra Logier était dédié à Raphaël Larère, qui est disparu récemment. Cet article qui vient clore le numéro, donc, il comporte un point d'interrogation à la fin. Care, genre et environnement. Pourquoi ce point d'interrogation, Fabienne Brugère?
D'abord, je voudrais dire que c'est un très bel article, l'article de Catherine Larère. Pourquoi ce point d'interrogation? Eh ben parce que sans doute que la question du genre, bien évidemment, elle traverse la question du care, elle traverse la question de l'environnement, mais en même temps, il faut toujours faire attention à ce qu'elle n'essentialise pas ces domaines. C'est-à-dire que quand on dit, par exemple, que le travail de care est largement accompli par les femmes, et c'est bien sûr vrai sociologiquement, statistiquement. En fait, le point de vue philosophique, c'est toujours d'essayer de voir comment on peut transformer les choses, comment on peut faire justement que les questions de care, elles soient plus uniquement traversées par des assignations de genre. Et donc, c'est pour ça, je pense, que chez Catherine Larère, il y a ce point d'interrogation, parce que Catherine Larère est quelqu'un qui, dans son travail, aussi bien sur le XVIIIe siècle qu'ensuite sur la philosophie de la nature ou la philosophie de l'environnement, c'est quelqu'un qui a toujours refusé les identités, les partages binaires. Donc voilà, c'est comme ça que je dirais cette fin en forme de point d'interrogation. Si le care et l'environnement pouvait se penser sans la question du genre et sans les oppressions de genre, eh bien tout irait très bien.
Merci beaucoup Fabienne Brugère. C'était donc à propos du numéro 99 qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines, de la revue Raison Politique éditée par les presses de Sciences Po, qu'on trouve en version papier ou en version numérique, bien sûr, comme toutes les revues académiques. Aujourd'hui, on trouve la référence sur la page de la suite dans les idées, comme celle des livres dont on a parlé aujourd'hui.